Voilà, nous étudions la vie de David et ce chapitre raconte sa transition au pouvoir, les circonstances qui entourent le moment où il va monter sur le trône d'Israël. Et on pourrait penser que maintenant que Saül est mort, qu'il n'est plus pourchassé par Saül, que ses soucis sont finis, maintenant qu'il a le vent en poupe, et qu'il a la bénédiction de l'Éternel, on pourrait penser que ses soucis sont finis. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il était pourchassé par Saül, la vie était désagréable, mais la tâche était simple, c'était rester en vie. Voilà ce que David avait à faire. Après la grâce de Dieu, il a fait. Mais maintenant qu'il commence à prendre ses fonctions de roi, la tâche se complique. Maintenant, c'est réussir à gouverner, réussir à gérer un royaume, à unir toutes ces tribus sur un seul roi. Et dans ce chapitre, au moment où la division qui existe entre la maison de Saül et la maison de David semble prendre fin, il semble que maintenant on va pouvoir unir tout le monde sous un roi, eh bien, une crise s'éclate avec Joab qui tue Abner, et ça pourrait faire tout éclater de nouveau. Comme tout responsable, tout dirigeant vous dirait, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui demande notre attention, nos prières, notre dépendance sur Dieu. Il y a toujours quelque chose qui nous donne des soucis. Il y a toujours quelque chose qui nous garde humbles. Toujours quelque chose qui révèle notre faiblesse. Il y a toujours quelque chose, je pense, dans notre vie qui nous donne le sentiment d'être un peu dépassé par les événements. Et c'est ce que David a dû gérer. Dès que vous mettez des gens ensemble, que ce soit dans un royaume, que ce soit dans un pays, que ce soit dans une église, que ce soit dans un foyer, il y a toujours une raison potentielle pour ne pas s'entendre, il y a toujours une raison potentielle à se faire des soucis si on voulait. Et en cela, je dirais que la vie de David nous offre un regard fascinant sur les relations humaines. Et puis tout le défi du leadership, de gérer les hommes et les situations. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours un problème, toujours une crise qui pourrait s'éclater. Mais à ce moment, on pourrait être de ceux qui empirent la situation. On peut être des Joab. Ou bien on peut être de ceux qui apportent une solution et qui vont vers la paix, vers l'unité. Alors ce matin, nous voulons voir comment David a géré cette crise, cette situation, et tout ce que nous pouvons en tirer nous-mêmes. Tout d'abord, j'aimerais voir que David, dans ses premières fonctions de roi, il s'est montré intègre. Voyons tout d'abord David intègre. Voilà, ici, dans ce chapitre, il va devoir gérer la première grande crise de son mandat, mais cette crise va révéler le cœur de David, le cœur intègre de David. Et ce chapitre, l'auteur veut montrer que dans les premiers actes, les premières décisions de David, où il commence à devoir gérer le royaume, le peuple, eh bien, cet auteur veut montrer cette qualité première chez David. C'était un homme intègre. Et c'est cette qualité qui est la plus essentielle et parmi les plus rares pour les dirigeants et les chefs. Vous savez, à l'époque, un peu aujourd'hui aussi, la méthode pour graver les échelons du pouvoir, c'est de tuer ou de faire tuer tous les concurrents. Comme ça, il n'y a que nous qui restons. Alors, même aujourd'hui, nous avons l'expression « être poignardé dans le dos ». Ça venait de l'époque où vraiment on se poignardait dans le dos. Maintenant, c'est plus imagé, mais vous savez comment cela se passe. Et ici, l'auteur fait de grands efforts pour montrer que ce ne sont pas là les méthodes de David. David, ce n'est pas quelqu'un qui poignardait les autres dans le dos pour monter au pouvoir et pour devenir roi. Et à plusieurs reprises, on va voir ça dans ces premiers chapitres de Samuel, où David devient roi. Tout d'abord avec la mort de Saül, que nous avons étudié la semaine dernière. David n'était pas coupable, il n'avait pas poignardé Saül dans le dos, il ne s'était même pas réjoui de la mort de Saül. Il était innocent, il s'est attristé, il a tué celui qui avait dit être celui qui avait tué Saül. Et le chapitre suivant, que nous n'avons pas lu ce matin, mais chapitre 4, il y aura la mort d'Ishbosheth, le fils de Saül, assassiné lui aussi. Et ceux qui apportent les nouvelles à David, pensant lui apprendre une bonne nouvelle, non, il va les faire exécuter sur le champ pour avoir tué, assassiné Ishbosheth. Donc, David, il montre clairement qu'il est un roi intègre. Alors, nous allons maintenant voir ça de plus près avec ce qui s'est passé entre Abner et Joab, cette grande crise que David a dû gérer. Alors, il y a pas mal de noms dans cette histoire, des personnages. Alors, je vous les présente un peu pour qu'on ne se perde pas dans les noms et les personnages. Vous avez Joab, c'est le commandant en chef de David, des armées de David. Et il se trouve que c'est le neveu de David, parce que Tserudia, sa mère, c'était une sœur à David. Vous avez Abner, de l'autre côté, c'est le commandant en chef de Saül. Et une fois que Saül meurt, son fils Ishbosheth prend le pouvoir, donc Abner, c'est le commandant en chef pour lui, et il se trouve que lui, c'est l'oncle de Saül. Après, vous avez Ishbosheth, et puis Azaël, c'est le frère de Joab. Donc, c'est quand même des affaires de famille dans tout ça, ce qui va compliquer la chose un peu plus. Mais voilà que dans notre histoire, ce matin, dans le chapitre 3, Ishbosheth accuse Abner de vouloir usurper le trône et le pouvoir. Alors Abner, il s'offusque, il est très irrité des deux versets, il dit n'importe quoi, m'accuser de ça. Si c'est comme ça, moi je passe du côté de David et j'amène tout Israël avec moi. Il faut dire que Ishbosheth avait un peu cherché la bagarre, mais il n'avait pas les reins suffisamment solides, les épaules suffisamment larges pour assurer la suite. C'était de toute évidence quelqu'un de très faible, un dirigeant très faible. Alors Abner, il part du côté de David. Maintenant, il dit, moi je vais unir tout le peuple avec moi et nous allons, comme l'Éternel avait dit, suivre le roi David. Alors David reçoit Abner et fait la paix avec lui. Trois fois, le verset dit, il s'en alla en paix. Donc c'est la paix entre David et Abner. La seule chose qu'il demande, c'est de pouvoir récupérer sa femme Michal, la fille de Saül. Alors, bien sûr, il veut récupérer sa femme, mais c'est aussi pour rappeler à tout le monde que David, c'est le gendre de Saül. Et donc, en tant que gendre du roi précédent, il peut aussi prétendre au trône. Alors, jusqu'à là, les choses sont bien parties pour que, enfin, Israël soit réuni, tous sous le roi que l'Éternel avait choisi, le roi David, et les choses vont de bon train. C'est en bonne voie. Et là, Joab apprend la chose et il n'est pas content. Alors il dit, mais non, Abner, il est venu pour espionner, c'est un espion, il ne faut pas faire la paix avec lui. Mais en fait, Abner avait des raisons surtout personnelles pour ne pas aimer Joab. Parce que dans le chapitre précédent, chapitre 2, sur un champ de bataille, Abner avait tué le frère de Joab. C'est pour ça que j'affiche tous ces noms, parce qu'on se perd un peu, mais Abner avait tué Azaël, le frère de Joab. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi Joab, il a Abner en travers la gorge. En plus, Joab, il n'est pas bête. C'est quelqu'un de très intelligent et il voit bien que Abner pourrait concurrencer son poste de commandant en chef, un pouvoir qu'il ne veut pas partager. Donc, il tue Abner, c'est ce que nous venons de lire. Il tue Abner, sachant, il sait qu'il aura une défense légitime, auprès de la majorité en tout cas, en disant que c'était pour venger le sang de son frère Azaël. La chose, c'est là où ça devient problématique, c'est que c'est pas comme si Azaël avait été une victime innocent assassiné par Abner. Au contraire, le verset nous a rappelé, le verset 30, que ça s'est passé dans la bataille. C'est-à-dire il y avait la guerre entre la maison de Saül, la maison de David, et sur un champ de bataille, Azaël traquait pour chasser Abner et voulait le tuer. Et à plusieurs reprises dans cette poursuite, dans cette bataille, Abner avait dit à Azaël, écoute, détourne-toi, je suis plus fort que toi, je veux pas te tuer, alors laisse-moi tranquille, détourne-toi de moi. Mais Azaël, il voulait avoir l'honneur, la gloire de tuer le commandant en chef, donc il continuait. Et à un moment, Abner s'est retourné et à un simple coup de lance, il a tué Azaël. C'était plus l'autodéfense sur un champ de bataille. Donc, Joab n'est pas vraiment justifié à vouloir venger le sang de son frère comme ça. Mais bon, supposons un instant que c'était un cas où Joab se voyait obligé de venger son frère, une dette d'honneur. Eh bien, dans la loi de Moïse, il y avait plus ou moins ce cas de figure où quelqu'un qui était mort par accident, par exemple, un membre de la famille voulait le venger, se venger, et bien pouvait pourchasser celui qui avait tué. Mais la loi de Moïse avait mis en place des villes de refuge où on pouvait se réfugier, être sûr qu'il y avait pas, que le cas allait être traité et une justice donnée. Et dans ces villes de refuge, on ne pouvait pas mettre la personne à mort. On ne pouvait pas se venger sur la personne dans ces villes de refuge. Or, il faut savoir que Hébron, là où tout ça se passe, c'est une des villes de refuge. Et 2 Samuel 3:27 dit que lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua. Donc il fait ça vraiment au milieu de la porte de la ville, là où Abner aurait d'autant plus de raisons d'être en sécurité, étant une ville de refuge. Donc ce que Joab fait ici est particulièrement injuste, c'est un crime, David le reconnaît, Abner est mort, innocent, c'était un mauvais coup, c'était un meurtre. Et là, David, il veut montrer que tout ça, c'est pas la politique de son royaume. Et David est intègre et dit, chez moi, chez nous, ce serait pas la méthode de se poignarder dans le dos. En tout cas, toute sa démarche par la suite montre qu'il n'avait rien à faire là-dedans. Et c'est ça qui est fort chez David. Verset 26, on nous dit que David n'en savait rien. Verset 28, David dit, je suis à jamais innocent et mon royaume aussi. Verset 29, il prononce une malédiction sur Joab. Verset 31, c'est lui-même qui conduit la procession funéraire puisqu'il est juste derrière le cercueil. Verset 32, il pleure, mais la manière dont il le fait, c'est clair, il le fait comme devant les caméras. Hein. Vous savez, les politiciens, parfois, ils savent se comporter pour être vus par le public. Et ici, David veut montrer que ce qu'il est en privé, c'est aussi ce qu'il est en public. Donc, il pleure ostensiblement devant tout le monde. Verset 33, il écrit une complainte, un éloge à Abner. Et puis, verset 35, il passe toute la journée dans le jeûne. Alors, avec tout ça, tout le monde, nous-mêmes, nous sommes convaincus que David est intègre dans cette affaire. David n'avait pas ordonné le meurtre de Abner. Et le peuple est touché par ce roi, ce nouveau roi, qui agit ainsi. Verset 36, « Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. » Et donc, on voit que dans les premières décisions, les premiers actes de David le roi, il, avec son intégrité, il a su préserver l'unité du peuple et éviter que les choses deviennent plus dramatiques. Ça, c'est un encouragement pour nous et ce qu'on souhaite chez nos dirigeants, et c'est une qualité que nous-mêmes, nous voulons vivre, cette intégrité. Peut-être il vous faut mettre un peu de distance avec les méthodes de ce monde, les méthodes qui veulent toujours poignarder les autres dans le dos pour gagner le pouvoir. Quand Dieu veut bénir un peuple, il lui donne des bons dirigeants. Quand Dieu veut punir ou juger un peuple, il lui donne des mauvais dirigeants. Et Dieu, c'était une grâce de Dieu à Israël de leur avoir donné David, ce roi. Et plus tard dans les psaumes, à un moment, on fait un bilan de son règne, de son mandat en tant que roi David, en psaume 78. Et le dernier verset dit, David les dirigea avec un cœur intègre et avec des mains intelligentes. David dirigea le peuple avec un cœur intègre. Ça, je dirais, c'est la qualité première, plus importante pour les dirigeants. ce qui va préserver, ce qui va permettre à Dieu de bénir le peuple. Et on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. La première qualité qu'on demande aux responsables d'église, aux responsables des ministères, c'est qu'ils soient irréprochables, qu'ils soient intègres dans leur caractère. Et ce qu'on trouve chez David. Donc, la première chose qu'on veut nous montrer, c'est que David, c'était ce bon roi intègre qui n'avait rien à voir avec les méthodes souvent mises en place pour gagner le pouvoir. Ensuite, nous voyons David qui commence son règne, un David faible. C'est ce que lui-même qu'il dit à la conclusion de tout cet épisode, verset 39. « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. » Et ses fils de Tsérudia, les fils de Tsérudia, c'était Joab, Abishai aussi, ses fils sont trop puissants pour moi. C'est intéressant, David commence son règne en sentant bien sa faiblesse, et en ça, c'est une bonne chose, il sent sa faiblesse. Il devait se sentir les mains liées avec Joab, comment gérer Joab. Joab était son neveu, ça c'était compliqué. Joab aussi était un très bon commandant, il avait besoin d'un bon commandement pour ses armées. Donc, on comprend cette incapacité, cette faiblesse qu'il sentait devant la situation. Mais on a quand même envie de se demander, tiens, cette attitude de David, heureusement, ce n'est pas celle qu'il avait devant Goliath. Il n'a pas dit devant Goliath, « Je suis encore faible et ce Goliath, il est trop puissant pour moi. » David devant Goliath était fort, alors qu'il était même pas, il n'avait même pas la fonction du roi. Et puis, autre chose, c'est que souvent David, il est toujours en train de consulter l'Éternel, notamment vis-à-vis des Philistins. Alors, plein de versets, je pourrais vous les citer. 1 Samuel 23, verset 2, 1 Samuel 30, verset 8, 2 Samuel 2, verset 2, 2 Samuel 5, verset 19, 2 Samuel 5, verset 23. Chaque fois, c'est des moments où David consulte l'Éternel face à un problème, face à un ennemi, notamment les Philistins. Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois les battre? Est-ce que je dois me combattre avec eux? Et chaque fois, Dieu lui répond. Mais ici, étonnamment, nous ne trouvons pas ce réflexe. N'aurait-il pas pu consulter l'Éternel au sujet de Joab? Seigneur, qu'est-ce que je fais de Joab? Et puis, dans le récit, juste avant la mort d'Abner, il y a la mort de Saül, et juste après la mort d'Abner, il y a la mort d'Ishbosheth. Donc, David doit traiter trois cas où quelqu'un vient lui dire, il est mort, notamment un de tes ennemis potentiels. Et quand Saül est mort, celui qui est venu apporter la nouvelle en disant, c'est moi qui ai tué Saül, il mentait parce que Saül s'était donné la mort, mais celui qui a dit, j'ai tué Saül, David a dit, tu as touché, loin de l'Éternel, eh bien, justice immédiate, il a fait exécuter, il a agissé en tant que roi, en tant que magistrat, qui foque l'épée de jugement, et il a prononcé la sentence immédiate sur celui qui a tué Saül, ou qu'il avait dit avoir tué Saül. Et puis juste après, il y a deux hommes qui vont assassiner Ishbosheth, le fils de Saül. Et quand il vient apporter la nouvelle à David, pensant lui apporter une bonne nouvelle, il dit la même chose. Quoi? Vous avez tué un homme dans son lit, un homme innocent? Eh bien, justice immédiate, exécution. Mais le troisième cas, Abner, là, c'est pas pareil. Cherchez l'intrus. Joab ne serait jamais puni. On comprend, c'est compliqué. La situation est beaucoup plus compliquée. Et là, on commence à voir un thème dans la vie de David. C'est que David était très fort pour gérer les Goliaths, les Philistins. Il était moins fort pour gérer les situations de proximité, les situations de famille. Et c'est normal, c'est souvent dans la vie, c'est plus facile de gérer les Goliaths que gérer les Joab. Bien souvent. En règle générale, c'est plus facile à faire face aux ennemis, aux adversaires de l'extérieur, qu'on reconnaît facilement comme les adversaires, que de gérer les adversaires, les situations de proximité, les situations qui viennent de l'intérieur, comme Joab. Et c'est souvent là où nous sentons notre faiblesse, c'est souvent là où nous défaillons. Alors David était un bon roi, était un excellent roi, le meilleur certainement que Israël a eu. Mais déjà ici, il me semble que le récit laisse apparaître quelques faiblesses. Un autre indice, d'ailleurs, c'est tout au début du chapitre 3, versets 2 à 5, on commence à parler de toutes les femmes de David et tous les enfants qui commencent à naître chez David. Ah, vous avez lu ça, vous avez dit, attendez, on parle du héros David, mais c'est quoi toutes ces femmes? C'est quoi cette polygamie? On connaissait David, le petit berger des brebis, celui qui tue Goliath, c'est super. Et là, maintenant, c'est plus le petit berger avec les brebis, c'est le roi avec tout un harem. On est mal à l'aise avec ça. Et c'est vrai que Dieu avait clairement dit dans la loi de Moïse que les rois ne devaient pas se multiplier les femmes. Et David est toujours à Hébron, il n'est même pas installé à Jérusalem, il a déjà un certain nombre de femmes. Et si jamais on n'était pas convaincu de cela, le récit de David, c'est la preuve formelle de Dieu que la polygamie est une mauvaise idée. La polygamie, une des, entre autres, des raisons que c'est une mauvaise idée, c'est que ça permet d'être le père biologique à grand nombre d'enfants sans être un père biblique, un père qui prend soin d'eux. Et donc, dans cette liste des enfants que David va avoir, les fils, On va étudier ces personnages dans la suite, mais nombreux vont poser de grands problèmes à David. Ils vont pas pouvoir, et David va être faible en tant que père envers plusieurs, Amnon, Absalom, Adonija. Alors, oui, on comprend, c'était la méthode de l'époque pour consolider le pouvoir. On discutait encore hier avec une sœur de l'Église. Voilà, c'est pouvant avoir beaucoup d'enfants, c'est une manière de se montrer plus fort, plus grand, plus avancé que les autres. Et donc, surtout si on sort du cadre du mariage et on se permet toutes sortes de femmes ou une polygamie, oui, c'est facile à multiplier les enfants. Mais là, on se dit, c'est dommage que David, dans cet aspect-là, en tout cas, ne s'est pas appuyé sur l'Éternel comme il avait souvent l'habitude de faire. Alors oui, au bilan final, David était un très bon roi, mais il n'était pas parfait. Il avait aussi, lui, ses faiblesses. Mais cela nous rappelle qu'aucun dirigeant humain, aucun chef humain n'est parfait. Aucun dirigeant humain peut gérer tous les soucis parfaitement. Pour connaître le roi parfait, pour connaître le chef parfait, il va falloir attendre. Notamment, il va falloir attendre Noël. Noël, il va falloir attendre la naissance, que veut dire Noël, la naissance du fils de David. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est intéressant, celui qui va enfin donner justice à Joab, c'est le fils de David, Salomon. Et David confie cette tâche, et une des premières choses que Salomon fait, lorsque lui, il monte au trône, c'est...